Bonsoir, chers amis, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à cette nouvelle soirée Biblos après la pause. Ce soir, nous continuons notre cours sur les fondements de la foi chrétienne et nous aurons comme sujet la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Gilles Despins qui va nous présenter ce sujet et avant de lui passer la parole, nous allons remettre cette soirée dans la prière. Dieu notre Père, nous te remercions parce que encore ce soir, tu nous donnes l'occasion d'approfondir ta parole. D'approfondir ta parole sur un sujet bien particulier, puisqu'il s'agit de la personne de ton Fils, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous nous remettons à toi pour que tu ouvres nos cœurs et notre intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire. Et nous désirons aussi te remettre notre frère Gilles, pour que tu le guides dans sa présentation. Nous te remercions pour cette soirée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, Gilles, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Jacques, et bonsoir à tous. Ça me fait vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir, quoique je dois l'admettre un peu nerveux, parce que franchement, là, de reprendre à la suite des deux précédents là, qui ont fait d'excellents exposés, je me sens pas très gros dans mes souliers, comme on dit chez nous. Franchement, j'ai été vraiment épaté par Philippe et puis Sylvain qui ont fait un excellent travail. Et franchement, là, c'est un privilège pour moi de pouvoir contribuer à nouveau. Je vais déjà préparer le PowerPoint. Et puis, ce que je voulais souligner d'important pour ce soir, c'est que comme lors de la première session, il n'est pas nécessaire que vous utilisiez enfin le canevas que je vous ai remis et que vous avez reçu de la part de Biblos, parce que en fait, il n'y a pas de notes à prendre ce soir, un peu comme dans la première session. Je vous encourage simplement à suivre l'exposé de ce soir avec le PowerPoint qui vous sera présenté aussi à l'écran et vous pourrez utiliser le canevas qui vous a été remis plutôt comme un aide-mémoire, parce qu'il y a pratiquement tout ce qui sera présenté ce soir dans le canevas. Donc, c'est un peu à l'image de ce que j'avais fait lors de la première présentation, et c'est ce que je vous encourage à faire aussi pour ce soir. Donc, je vais simplement disposer un peu ce petit écran pour pas qu'il me gêne. Voilà. Le sujet étudié cette semaine est la doctrine du Fils de Dieu et c'est un sujet vraiment important. Et je me sens un peu comme quand on se retrouve sur une terre sainte et on entend cette voix qui nous dit de se déchausser à cause de la présence de Dieu, à cause de l'aspect solennel de cette doctrine. Eh bien, c'est un sujet d'une telle importance, le sujet du Fils de Dieu. Je me réjouis d'une part, mais je ne vous cache pas que je suis assez nerveux d'entrer dans ce sujet-là. J'ai souvent insisté dans le passé sur l'importance de ne pas interpréter l'Ancien Testament avec la lentille du Nouveau Testament. Et cette mise en garde-là, en fait, a toujours eu pour but d'éviter comment je dirais, d'imposer la révélation du Nouveau Testament à celle de l'Ancien Testament, ce qui nous amènerait forcément à négliger le développement contextuel, immédiat et doctrinal aussi de la révélation progressive de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours encouragé à éviter de prendre un texte qui vient plus tard, puis de l'imposer dans l'Ancien Testament. Mais l'envers de la médaille, c'est que c'est aussi vrai que la révélation du Nouveau Testament va parfois jeter un éclairage qui est hyper important, voire même nécessaire dans certains cas, à celle de l'Ancien Testament. Et ça, c'est une vérité qui se constate d'une façon toute particulière lorsque nous étudions la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de textes du Nouveau Testament qui vont nous aider à mieux comprendre l'Ancien Testament. Bien entendu, il ne faut pas négliger le contexte immédiat d'un passage dans l'Ancien Testament ou aussi sa place dans la révélation progressive de Dieu. Mais un passage du Nouveau va parfois nous aider à mieux comprendre un texte de l'Ancien Testament. C'est évident aussi qu'on ne peut pas saisir pleinement ou complètement qui est Jésus-Christ avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Comme tout autre sujet de la révélation progressive de Dieu, on connaît beaucoup mieux Jésus quand on arrive dans le Nouveau Testament que uniquement avec les textes de l'Ancien. Par contre, l'Ancien Testament nous donne suffisamment de révélations à propos de Jésus pour que nous puissions déjà établir un portrait assez net, voire même complet. Même dans le seul livre d'Ésaïe, le prophète, on peut retracer tout le portrait complet de Jésus-Christ et de toutes les étapes importantes, par exemple, de sa vie depuis sa naissance jusqu'à son ascension dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a confirmé à plusieurs reprises que l'Ancien Testament parlait de lui. Et donc, nous allons voir quelques textes dans le Nouveau Testament qui nous confirment la présence de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Le premier est Luc 18, verset 31. Vous le voyez maintenant à l'écran. Voici, nous montons à Jérusalem et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme seront accomplies. Donc, on voit toutes les choses écrites par les prophètes. Et ici, dans ce passage, l'expression « les prophètes » résume l'ensemble des écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Encore, dans Luc 24, verset 27, nous lisons « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. » Cette expression ici, « Moïse et tous les prophètes », est une façon aussi de parler de tout l'Ancien Testament. On trouve d'ailleurs très souvent cette expression où, par exemple, on parle de la loi et des prophètes, qui résument aussi l'ensemble de l'Ancien Testament. Et dans le même chapitre, un peu plus loin, nous lisons encore, et cette fois-ci, ce sera au verset 44, il s'en vient, voilà. « Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. » Là, ici, nous avons une expression qui est globale, qui englobe tout l'Ancien Testament et en particulier, nous l'avons déjà souligné dans la première session, les trois divisions majeures de l'Ancien Testament des Hébreux tel que le canon se présentait à l'époque du Seigneur Jésus. Donc, Moïse, c'est le Pentateuque, les prophètes, c'est l'ensemble des écrits prophétiques et incluant aussi les livres historiques rédigés par des prophètes. Et les psaumes, en fait, ce sont les écrits, et les psaumes, c'est l'ouvrage principal de la section qui s'appelle les écrits dans le canon hébreu. Et il y a beaucoup d'autres ouvrages qui font partie de cette section-là. Ensuite, nous avons un autre texte dans l'Évangile selon Jean, cette fois, au chapitre 5, verset 39, où Jésus dit ceci, « Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ici, c'est le terme « Écriture » qui est utilisé en général quand on voit ce mot dans le Nouveau Testament, même dans les Épîtres. C'est surtout l'Ancien Testament dont il est question. Donc, à nouveau, un autre texte qui confirme que Jésus est bel et bien présent dans les pages de l'Ancien Testament. Dans le même chapitre, un peu plus loin, Jésus dira, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi ou à mon sujet. » Et nous avons encore dans l'Évangile selon Jean, mais cette fois au chapitre 1, cet autre texte qui nous dit, et c'est Philippe d'ailleurs qui déclare cela, « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. » Donc, en l'identifiant comme étant ce personnage historique, donc fils de Joseph et aussi de la ville de Nazareth, Philippe est en train de confirmer que ce personnage historique qui apparaît maintenant dans son ministère public, eh bien, tout l'Ancien Testament nous avait parlé de lui. Luc va aller un peu plus loin. En fait, il va ajouter à ce témoignage dans Actes 28, verset 23, et là, c'est au sujet du ministère de Paul qu'il dit ceci, « Et il leur exposait la vérité en rendant témoignage du royaume de Dieu depuis le matin jusqu'au soir. » Et regardez ce que Paul faisait. cherchant à les persuader des choses concernant Jésus et par la loi de Moïse et par les prophètes. À nouveau, cette expression qui résume tout l'Ancien Testament. L'apôtre Paul pouvait amener des gens à une profonde conviction au sujet de la pleine identité de Jésus uniquement dans les pages de l'Ancien Testament, puisque à ce moment-là, tout le Nouveau Testament n'était pas rédigé encore, et peut-être déjà quelques livres, mais à peine, à peine. C'était l'Ancien Testament qui était la base littéraire pour présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est ce que Paul utilisait. Alors, on voit que tous ces passages-là nous révèlent que toutes les choses concernant le Fils de Dieu ont été rédigées dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans chacune des divisions majeures du canon hébraïque, le canon des Juifs, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les Écrits. Et ce serait vraiment très intéressant de découvrir tout ce que la Bible enseigne à propos du Fils de Dieu et imaginer si on faisait ça en traversant les Écritures progressivement du début à la fin. Imaginez qu'on débute à la Genèse et on note au passage tout ce qui est dit au sujet du Fils de Dieu. Ce serait vraiment remarquable. Et ce type d'approche, en fait, porte un nom dans les milieux théologiques ou académiques. On appelle cela la théologie biblique. Et quand on fait de la théologie biblique, ensuite, on prend les résultats de nos découvertes et puis on catégorise tous ces résultats de manière à former une théologie systématique claire. D'ailleurs, voici un graphique qui vous présente cette approche. On voit que pour développer une bonne théologie, eh bien, on part avec l'Écriture, puis on le fait de manière progressive, c'est-à-dire en débutant au livre de la Genèse et en terminant dans l'Apocalypse. Et nous le faisons avec une méthode d'interprétation cohérente, solide, bien entendu, et nous appliquons donc cette approche d'étude qu'on appelle la théologie biblique. On est dans l'Écriture, de Genèse à Apocalypse, on interprète correctement en considérant chaque texte dans son contexte, et ce faisant, nous sommes en train de développer la théologie biblique, par exemple, du Fils de Dieu, pour ce qui nous préoccupe ce soir. On peut faire ça avec n'importe quelle doctrine. Par exemple, si vous vouliez étudier le Saint-Esprit, disons, c'est le sujet de notre prochaine session, eh bien, on débute dans Genèse, on a tout ce qui est dit sur le Saint-Esprit, à la fin, on systématise tout cela dans des catégories bien définies, et puis nous aurons la doctrine du Saint-Esprit, la pneumatologie, et ce sera notre théologie systématique. Dans notre contexte de ce soir, nous allons plutôt appeler cela la christologie, puisque c'est l'étude de Christ que nous allons faire. Et comme on le voit dans le graphique, une fois que nous avons établi une bonne théologie systématique qui repose sur une théologie biblique basée sur une bonne interprétation de l'Écriture, nous arrivons avec ces deux branches importantes, parce que la théologie ne doit pas rester au niveau cognitif, mais doit descendre dans le cœur. On arrive à ces deux branches de l'apologétique et de la pratique. La théologie de l'apologétique, c'est de savoir défendre, justifier, expliquer la foi. Et la théologie pratique, bien, ça le dit, c'est de vivre, de mettre en pratique ce que nous croyons, ce que nous avons découvert dans la parole de Dieu. Bon, bien entendu, en tant que chrétien, on ne suit pas nécessairement tout ce développement chaque fois qu'il est question d'une doctrine dans notre vie. Mais ce travail a été fait auparavant et il nous est enseigné par les prédicateurs dans les églises locales. Enfin, on doit aspirer à avoir de tels enseignants qui nous proclament, nous prêchent la parole de Dieu de manière à établir une très solide théologie dans l'apologétique et la pratique qui repose sur cette méthode, cette approche, mais c'est aussi le cas dans les ouvrages, dans les livres. Alors aujourd'hui, je dirais que pour la majorité des chrétiens, on bénéficie plutôt du travail qui a été fait que de le faire par nous-mêmes. Alors ce soir, ce que nous allons regarder ensemble, c'est comme si on avait appliqué tout le cheminement que nous venons de voir pour établir en bout de ligne la théologie biblique et systématique du Fils de Dieu. Donc, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de manière à en arriver à développer pleinement notre christologie. Donc, en tant que méthode d'étude, la théologie biblique consiste à chercher à découvrir tout ce que la Bible peut dire à propos d'un sujet, d'une doctrine ou un enseignement, et en l'occurrence ce soir à propos de Jésus-Christ, mais toujours en tenant compte du contexte particulier de chaque passage dans la révélation progressive de Dieu. Alors, pour le dire autrement, on prend la doctrine du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, et on cherche à découvrir tout ce que la Bible nous dit en commençant dans la Genèse et en finissant dans l'Apocalypse 22. C'est évident que nous n'avons pas le temps de faire cela ce soir, donc je vais vous présenter les résultats de cette démarche d'une façon un petit peu particulière, vous allez le voir dans quelques instants. Mais quand même, il faut dire qu'il y a une difficulté avec cette approche, c'est-à-dire de regarder chaque texte comme ça de façon progressive dans l'Écriture. Et la principale difficulté est de demeurer objectif, c'est-à-dire de ne pas imposer quelque chose au texte. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que nous avons déjà quelque chose à l'esprit. On cherche quelque chose de précis. On cherche Jésus-Christ. Et dans cette ligne d'idées, eh bien, tu vas avoir d'une part ceux qui ne voient pas Jésus, mais pas du tout dans l'Ancien Testament, et à l'opposé, tu vas avoir ceux qui voient Jésus, mais tout partout à travers l'Ancien Testament. Et je crois qu'il faut éviter ces deux extrêmes et chercher le plus objectivement possible à voir ce que le texte biblique nous enseigne à propos du Fils de Dieu d'une manière très claire. Et quand on aura traversé toutes les Écritures et noté au passage tout ce qui sera dit à propos du Fils de Dieu, c'est là que nous pourrons établir une solide théologie systématique complète de Christ, qu'on appelle communément la Christologie. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de présenter les résultats d'une telle approche ou d'une démarche théologique comme celle-là. Et pour ce soir, j'aimerais vous présenter ce que nous pouvons découvrir dans les Saintes Écritures à propos de Jésus-Christ, mais dans un cadre particulier, celui de la chronologie. Donc, nous allons regarder d'une manière chronologique ce que la Bible nous révèle à propos de Jésus-Christ. Et voici comment ça va se faire. C'est à travers sept étapes. Nous allons voir Jésus-Christ dans l'éternité passée, ensuite dans la création, puis dans l'histoire de la rédemption, dans l'incarnation, dans l'Église et plus brièvement à la fin, dans son règne à venir et aussi dans l'éternité future. Donc, nous allons débuter avec Jésus-Christ dans l'éternité passée. Alors, il y a vraiment plusieurs passages qui font clairement allusion à l'existence de Jésus-Christ dans l'éternité passée, c'est-à-dire avant toute chose, hein, avant la création, avant quoi que ce soit. On parle simplement d'une existence continue, toujours dans le passé. Pour nous, c'est insaisissable parce qu'il nous faut toujours avoir un point dans le temps. Je veux dire, nous sommes des êtres limités dans le temps et donc nous avons toujours besoin d'un élément textuel, pas textuel, mais temporel quelque part. Pardon pour l'eau, j'ai la voix qui sèche assez rapidement ce soir. Donc, ce qu'on veut voir, dans le fond, c'est Jésus qui existe éternellement en tant que fils de Dieu. Et voici quelques passages, en fait, qui sont les passages clés. Dans Jean 1, versets 1 et 2, on lit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement auprès de Dieu. Ce mot commencement, il a tellement de sens différents et le sens ici correspond à l'éternité passée. Ce n'est pas le commencement de la création, par exemple. Ce n'est pas non plus le commencement de la vie de Jésus sur terre ou de son ministère public ou même de l'Église. C'est vraiment le commencement dans le sens de éternité passée. Mais c'est un mot humain qui exprime oui, franchement, une vérité qui est complètement en dehors de notre expérience. On ne peut pas saisir l'éternité passée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, nous sommes temporels, nous sommes dans le temps, dans l'espace, et donc nous avons toujours besoin d'un point défini. Et le langage humain ne peut même pas rendre parfaitement ou clairement le concept d'éternité passée. Alors, Jean utilise le mot commencement, mais dans ce sens de l'éternité passée. Et que dit ce texte? C'est simple. Jésus était éternellement présent avec Dieu. Donc, il était distinct de Dieu tout étant pleinement Dieu lui-même. C'est ce que dit ce premier verset. Mais Jean insiste sur la présence du Fils de Dieu dans l'éternité passée en répétant deux fois le terme « commencement ». Ce texte des Colossiens, il est parfaitement clair. Et lui est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Donc, à nouveau, c'est un genre de construction humaine, hein, temporelle, mais qui se clarifie. Pour nous, on voit que Jésus est avant toute chose. Donc, peu importe ce qui existe, il est avant. Il était là avant, il était déjà existant. Et même le Seigneur Jésus évoquera cette réalité dans sa prière sacerdotale au chapitre 17 de Jean. Nous le voyons dans deux versets, versets 5 et 24. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus était dans la présence et la communion et l'amour de son Père bien avant que le monde soit fait, bien avant la création. D'ailleurs, ce Pierre nous dit aussi dans chapitre 1, verset 20, préconnu, en parlant de Jésus, était préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. Ce sens de préconnu veut tout simplement évoquer les plans souverains et éternels de Dieu dans le choix, pas parce qu'il y en avait plusieurs, mais dans le fait que Jésus est élu, il est choisi, en fait, il est identifié clairement dans les plans souverains de Dieu qui nous dépassent comme étant celui qui allait être le Rédempteur. Et il l'est avant même la fondation du monde, mais manifesté dans le temps lorsque Jésus sera incarné. Donc, ce texte-là de 1 Pierre 1:20 va dans le même sens aussi que ceux que nous venons de voir concernant Jésus dans l'éternité passée. Nous allons lire maintenant, et ils seront à l'écran, et parfois, ben, très bientôt d'ailleurs, vous aurez besoin de votre Bible parce que je vous amènerai à tourner vos pages, question de participer un peu et pas simplement de regarder de façon passive. Mais dans Jean 3, au verset 16 et 17 des textes que nous connaissons très bien, nous lisons ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde, et j'ai mis en gras bleu les textes sur lesquels je veux insister, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. » Ce passage révèle très clairement que Dieu a donné et envoyé son Fils, ce qui implique sans aucune ambiguïté que Jésus était déjà le Fils de Dieu avant l'incarnation. Donc, Jésus est Fils éternel. Et là, ici, il y a une mise en garde qui s'impose. Attention, parce qu'il y a deux passages en particulier en lien avec le sujet de cette éternité du Fils qui sont parfois mal interprétés et qui aboutissent avec une fausse doctrine en réalité ou disons une interprétation incorrecte. Et là, je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner avec moi dans ce passage des Colossiens. Donc, Épître de Paul aux Colossiens, et nous allons lire au chapitre 1, le verset 15. Donc, je vais utiliser la Bible Darby, là, cette nouvelle édition de Roll. Bon, pardonnez-moi, elle est un petit peu à cause du flou, là, du fond, embrouillé. Mais c'est la Bible Darby, édition de Roll, que j'utilise pour ce soir. Colossiens 1 et verset 15, qui nous dit ceci. « En parlant du Fils, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et cette expression « premier-né de toute la création » fait dire à certains que Jésus a été aussi créé, mais qu'il est le premier être à avoir été créé. Ce n'est pas juste, c'est incorrect. Et d'ailleurs, si on porte attention à tout le contexte, nous verrons bien que ce n'est pas ce dont il s'agit. Remarquez bien que le verset suivant, Le verset 16 débute avec un car. Il est le premier-né de toute la création, car, ou c'est-à-dire parce que c'est une explication. Pourquoi? Parce que par lui ont été créées toutes choses. Jésus n'a pas été créé, c'est lui qui a créé toutes choses. Et nous l'avons vu tout à l'heure, il était avant toutes choses créées. Donc, ce serait un peu ridicule de dire que Jésus est le premier créé, le premier être créé, tout simplement parce qu'il porte le titre ici de premier-né de toute la création. En fait, le sens de premier-né veut simplement dire qu'il a la première place, qu'il a la primauté, il a toute l'autorité et il est souverain sur toute chose. Jésus est premier-né parce qu'il jouit de ses droits de premier-né, ses droits d'aînesse, que tout lui revient en fait. Tout lui revient. Ce n'est pas du tout un ordre dans la création, mais plutôt une position d'autorité, de suprématie, de primauté et de souveraineté. Et le contexte est parfaitement clair à ce sujet. Donc, Jésus n'a pas eu du tout de commencement. L'autre texte qui est parfois mal interprété est celui-ci que vous voyez maintenant dans les Hébreux, au chapitre 1, verset 5. Nous allons tourner là-bas pour lire ce texte ensemble. Donc, Hébreux, chapitre 1, et puis verset 5. J'espère que votre éclairage est mieux que le mien, parce que moi, c'est assez sombre ici. Ça paraît peut-être pas, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, alors je lis verset 5. « Car auquel des anges, en parlant de Dieu, a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Et cette phrase, elle est souvent mal comprise, mal interprétée, comme si Jésus, dans l'incarnation, était devenu fils de Dieu. Et vous savez, de grands commentateurs ont eu cette pensée dans le passé. Et assez récemment, je pense entre autres à John MacArthur. John MacArthur, il y a plusieurs années déjà, il croyait et pensait que Jésus, qui existait depuis toujours, hein, qu'il croyait à la deuxième personne de la Trinité depuis toujours. Ça oui, il n'y a aucun doute, il croyait à l'éternité de la deuxième personne de la Trinité, mais il pensait également que Jésus était devenu fils et avait acquis ce titre lors de l'incarnation. Mais il a changé de position, il a admis lui-même qu'il avait fait erreur à ce sujet. Malheureusement, il n'a pas pu corriger toutes ces bibles d'études qui ont circulé un peu partout encore aujourd'hui et tous ces commentaires sur l'Épître aux Hébreux qui affirment le contraire. Mais soyez rassurés, John MacArthur ne croit plus aujourd'hui à cela. Il croit fermement à l'éternité du Fils et il l'explique très, très bien sur le site anglophone, malheureusement, mais gracetoyou.org, c'est gty.org. Et puis, voilà, il explique sa démarche. Et le frère Douglas, que vous connaissez bien, il a contribué à amener John MacArthur à ce changement de position. Donc, en fait, il faut qu'on comprenne correctement cette expression « je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est une phrase qui parle plutôt de l'accession à une position élevée. Par exemple, un roi qui dit à son fils qui va devenir roi à sa place « je t'ai engendré aujourd'hui » signifiait tout simplement « te voilà maintenant assis sur le trône, te voilà dans une position élevée ». Ce n'était pas engendré dans le sens de procréer et d'avoir maintenant voilà un fils qui vient de naître. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Et d'ailleurs, nous avons ce texte dans les Actes des Apôtres qui nous aide beaucoup à comprendre l'expression et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans ce passage parce que le voir sous nos yeux, c'est toujours plus convaincant. Et c'est la parole de Dieu. Et la lire, c'est un texte vivant. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Actes 13 et nous allons voir à nouveau cette expression dans un contexte particulier qui éclaire le sens de cette affirmation. Donc, je suis dans Actes 13 et je vais lire les versets 32 et 33. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père, que Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus, comme aussi il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, moi je t'ai engendré aujourd'hui. » Regardez la suite de l'explication. « Or, qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts pour ne devoir plus retourner à la corruption, il l'a dit ainsi, « Je vous donnerai les grâces saintes assurées » ou les grâces assurées plutôt de David, du texte de Second NG qui me reviennent à l'esprit souvent. Tout le contexte parle de résurrection. Et en réalité, c'est une phrase qui fait allusion à la résurrection de Christ et à son ascension sur le trône céleste. Donc, la phrase « Je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » est une phrase qui doit être comprise dans le contexte de l'accession au trône céleste dans la résurrection et l'ascension. Ainsi, Jésus existe depuis toujours, c'est vrai, et précisément en tant que Fils éternel de Dieu. Nous allons maintenant voir le second point, Jésus dans la création. Et à la suite de ce point-là, nous prendrons déjà une petite pause, si je ne fais pas erreur. Oui, ça devrait être bon, si j'ai l'heure correcte devant moi. Vous savez, quand nous lisons dans le texte biblique, au tout début, là, dans la Genèse, et nous entrons dans le récit de la création, on voit tout de suite qu'il est clairement question de Dieu, n'est-ce pas? On voit Genèse 1, verset 1, où Dieu est tout de suite impliqué dans la création. On voit aussi au verset 2 du récit de la création, de la Genèse, l'Esprit de Dieu qui est déjà là aussi. Donc, le Père et l'Esprit sont déjà dans le récit, mais le texte ne parle pas du tout du Fils de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Avant d'aller plus loin, il faut déjà noter que le mot « Dieu » lui-même en hébreu révèle quelque chose de très important en lien avec notre étude. Et j'aimerais vous citer un texte que j'ai déjà rédigé dans le passé dans le contexte d'un autre cours, mais qui est très approprié ici. Vous pouvez le lire avec moi, il est à l'écran. Le mot hébreu pour Dieu dans Genèse 1, verset 1 est Elohim. C'est un nom pluriel masculin. Morphologiquement, c'est-à-dire dans la forme même du mot, les noms dans l'hébreu biblique ont des formes singulières et plurielles, mais aussi duelles. Les formes duelles sont principalement réservées pour les choses qui se présentent en pair, donc par deux. En d'autres termes, le singulier signifie un, le duel signifie deux, et le pluriel, par définition, signifie généralement trois ou plus. Alors, même si on ne peut pas faire reposer toute une doctrine seulement sur un élément grammatical, il n'en demeure pas moins que c'est déjà une bonne indication d'une pluralité en Dieu. Donc, on ne peut pas trop exagérer et mettre toute la doctrine de la Trinité uniquement dans le nom Elohim, mais quand même, c'est important de noter que c'est un nom pluriel et qui, par définition, comporte trois éléments et, dans ce cas-ci, trois personnes. Et plus, disons dans d'autres contextes, mais ici c'est la limite étroite, bien entendu. Alors, le reste de l'Écriture, en fait toute la suite dans la révélation progressive de Dieu, va nous confirmer qu'une compréhension trinitaire de Dieu est tout à fait juste. Et un peu plus loin, dans ce premier chapitre de la Genèse, lorsque vient le temps de créer l'homme, on voit que Dieu parle à une autre personne qui n'est pas identifiée dans le texte. Nous regardons ce passage de Genèse 1, versets 26 et 27, où nous lisons ceci. « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Dieu parle à quelqu'un ici, là. « Faisons. » Il parle à quelqu'un. Mais au verset suivant, et c'est dans le PowerPoint, le texte dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. » Verset 27. Eh bien, vous remarquez que cette fois-là, le texte dit et insiste même que l'homme a été fait à l'image de Dieu et non pas à l'image de Dieu et d'une autre personne. Et cela semble indiquer que celui à qui Dieu parle est aussi Dieu. Ainsi, Dieu se parle à lui-même, si on pouvait dire, mais ce serait mieux de dire que Dieu parle à une autre personne qui porte aussi le caractère et la nature de Dieu. Ce sont seulement des éléments préliminaires avec le terme même « Dieu » en hébreu, « Elohim » et cette constatation que nous avons maintenant sous les yeux mais qui nous amène déjà à découvrir la révélation d'un Dieu créateur en plusieurs personnes. Mais bien entendu, c'est dans le Nouveau Testament que l'on reçoit une pleine révélation de l'implication de la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire du Fils de Jésus-Christ, dans la création, et les textes sont maintenant parfaitement clairs. Regardez par exemple Jean 1, verset 3. « Toutes choses furent faites par elle. » Ici, « elle », c'est la parole, et c'est Jésus dont il est question. Donc, Jésus est la parole incarnée. Et sans elle, sans Jésus, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. C'est parfaitement clair. Jésus était-il impliqué dans la création, même si son nom n'est pas là, même s'il n'est pas clairement identifié par son titre, par exemple, de Fils de Dieu? Eh bien oui, il l'était, et on le voit maintenant plus tard dans la révélation progressive de Dieu. Voilà pourquoi, au début, je disais que parfois, dans certains cas, la révélation qui va suivre ultérieure va nous éclairer sur la révélation antérieure. Mais il y a tellement d'autres textes. Voyez ce beau passage des Colossiens où Paul nous dit ceci. « Car par lui ont été créés, c'est-à-dire par Jésus, toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité. » Ces quatre termes parlent du monde angélique, du monde spirituel. C'est comme si Paul voulait dire « tout ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, même les anges là, tout ça a été créé par le Seigneur Jésus. Toutes choses, dit-il, ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent même par lui. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux a la même profonde conviction. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Et l'expression « les mondes » ici est une manière de parler de l'univers, donc d'aller dans le plus long sens du terme. Voilà, Jésus a tout fait finalement. Il est carrément impliqué dans toute la création. Et en plus d'être celui par qui la création va venir à l'existence, eh bien, Jésus-Christ devait être également celui par qui la création serait rachetée du péché après la chute. Et ça, ce sera l'objet de notre prochain point, Jésus-Christ dans l'histoire de la rédemption. Alors, vous voyez qu'on procède vraiment de manière chronologique avec Jésus dans l'éternité passée, dans la création, et maintenant on le voit dans toute l'histoire de la rédemption, parce que, en fait, l'histoire de la rédemption, c'est le fil conducteur de toutes les pages de la Bible. Le plus grand thème biblique, c'est probablement la gloire de Dieu. Et je dirais même, pour être plus précis, la gloire d'un Dieu souverain. Ça j'aime beaucoup comme thème unificateur de toute l'Écriture. Mais l'histoire de la rédemption, du point de vue des hommes, ça, c'est le plus grand fil conducteur pour nous. Et puis, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et ce n'est pas pour rien qu'on va le considérer dans cette prochaine étape. Alors, j'arrête déjà le partage maintenant pour passer à une période de questions, s'il y en a.
Merci beaucoup, Gilles, pour cette première partie dense. Alors, on a déjà deux questions qui nous sont proposées. Je profite à dire à chaque participant, n'oubliez pas de poser vos questions en appuyant sur le bouton QR que vous avez au bas de votre écran. Alors, une première question, comment peut-on être sûr que le mot « commencement » dans Jean 1, versets 1 et 2, fait vraiment allusion à l'éternité passée?
Ben, tout simplement, d'une façon logique, on peut se demander si c'est un commencement de quelque chose de particulier, quel serait ce commencement? Et par la suite, dans un autre volet de questions logiques, nous allons nous demander si ce commencement, donc, doit être exclusif. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit exclure un sens qui précéderait ce commencement? Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais c'est, par exemple, si on pense que le commencement, c'est à la création, on dit, OK, c'est le commencement dont il est question, c'est la création. Le texte nous parle de la présence de Jésus auprès de Dieu. Est-ce qu'il faut donc conclure que Jésus ne serait auprès de Dieu qu'à partir du moment de la création? Et donc, un raisonnement logique avec l'appui biblique nous ferait répondre non à cette question, parce que franchement, ce serait penser que Jésus n'existait pas du tout avant. Et pourtant, puisque les choses ont été créées par lui, il faut qu'il soit là avant, il faut qu'il soit déjà là avant. Alors, à la lumière de tous ces autres passages que nous avons vus, je pense que la cohérence théologique, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation de Dieu dans la Bible, et le contexte immédiat qui parle d'être dans la présence de Dieu et d'être Dieu lui-même, en fait, aussi. Et s'il est Dieu, il ne peut pas avoir un commencement temporel comme nous le pensons. Eh bien, tout de suite, ça nous ramène à l'éternité passée. C'est un peu une certaine logique, mais qui est biblique dans ce cas-ci, puisqu'elle repose sur une évidence très claire ailleurs. Est-ce que ça va comme réponse? C'est peut-être là dans ma tête.
Pour moi, je comprends ce que tu dis. Je laisse l'auteur de la question répondre si vraiment ta réponse est suffisante. Mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué de définir ce que c'est que l'éternité passée pour nous qui sommes tellement dépendants du temps dans lequel nous nous trouvons.
Absolument.
Une autre question. Satan a-t-il été créé après Jésus-Christ? Peut-être qu'on peut l'étendre avec les êtres célestes aussi.
Oui, mais juste pour clarifier la question avant de donner la réponse, c'est que la question dit Satan a-t-il été créé après Jésus-Christ, ce qui pourrait suggérer que Jésus a été créé, puis Satan en deuxième lieu. On devrait formuler la chose différemment. Mais peut-être que l'étudiant veut dire, c'est est-ce que Satan a été créé avant tout le monde angélique en premier lieu ou en même temps? Eh bien, là, c'est difficile de répondre. Moi, je ne vois pas nécessairement une réponse précise à cela dans l'Écriture, mais on sait simplement que tout le monde angélique qu'on a vu dans ce passage où il y avait ces quatre termes qui se réfèrent à des catégories d'anges. Donc, le monde angélique en entier a été créé par le Seigneur Jésus et il a entièrement été créé bon, mais avec, de toute évidence, une liberté qui me semble avoir été temporaire, mais enfin, je ne suis pas trop certain de ça, mais une liberté d'obéir ou pas à Dieu. Et de toute évidence, Satan a décidé de se révolter contre Dieu et a entraîné dans cette révolte d'autres anges qui l'ont fait sur une base, décisive et volontaire, hein, intentionnelle. Donc, il y a eu une révolte. Mais voilà, pour déterminer un ordre dans la création angélique, ça, je ne peux pas. Franchement, à moins que toi, Claude Henry, ou quelqu'un d'autre, aurait un verset quelque part qui semblerait suggérer un ordre dans la création angélique, mais je ne suis pas trop certain, personnellement.
C'est vrai que dans ce domaine, on entre dans une situation qui n'est pas beaucoup explicitée dans la parole de Dieu.
Exactement, et donc on sera forcé.
Oui,
on sera forcé de présenter des hypothèses et des spéculations, et ça, je préfère laisser de côté.
Alors, une autre question. En considérant le texte de Colossiens 1,15, quel est le mot qui pourrait mieux expliquer l'expression premier-né pour éviter toute mauvaise interprétation de celle-ci?
C'est difficile de répondre à cette question parce que le mot premier-né est celui qui est utilisé. C'est simplement que dans le texte biblique, dans la théologie biblique, ce mot-là n'a pas le sens que nous lui donnons presque d'une manière exclusive aujourd'hui. Un premier-né, c'est celui qui vient en premier dans une famille. C'est le fils aîné. Et donc, c'est pourquoi nous allons lui donner automatiquement cette définition. Mais sous la plume de Paul, il ne s'était même pas envisagé. Il n'avait pas cela. Et on pouvait comprendre le terme prototokos en grec comme étant un terme qui parle d'avoir simplement la primauté ou la première place au niveau de l'autorité, des droits, des privilèges, etc. D'ailleurs, même dans le contexte biblique, un premier-né dans l'Ancien Testament n'est pas forcément quelqu'un qui est né en premier, mais c'est quelqu'un qui jouit de certains privilèges par rapport à d'autres. Et donc, ça, on le voit déjà. On voit même que ce droit-là peut être vendu ou dérobé par une espèce de trompeur, Jacob, pour ne pas dire son nom. Alors voilà, on voit clairement que dans l'Écriture, le terme n'est pas uniquement employé. Il l'est, mais pas uniquement dans le sens que nous lui attribuons généralement, c'est-à-dire de premier-né dans l'ordre de naissance.
vrai que souvent, quand on interprète la parole de Dieu, on doit aussi avoir certaines connaissances sur la manière dont les gens comprenaient la parole de Dieu à leur époque, hein.
Absolument. Et là, je précise qu'il y a des bons lexiques qui existent pour ça. Et puis, il y en a deux qui vont être publiés dans les. Oui, il y en a un qui est déjà même imprimé. J'ai eu le privilège de voir le premier exemplaire, le dictionnaire des mots bibliques qui s'en vient très bientôt sur nos tablettes et qui va vous aider à comprendre justement un mot selon son sens lexical et son sens aussi, son champ sémantique et donc son contexte. Et puis, je dis juste en passant que Jésus est aussi premier-né dans sa famille, hein, dans le sens qu'il est le premier enfant né de Joseph et Marie. Donc, du point de vue de son humanité, il est aussi un premier-né, mais Colossiens ne parle pas du tout de cela.
Merci beaucoup. Encore deux questions. À part le passage de Genèse 1, 26 à 27 de l'Ancien Testament, pouvez-vous nous donner d'autres passages de l'Ancien Testament qui affirment que Jésus-Christ était présent au commencement?
Bien, en fait, j'encourage l'étudiant qui a posé cette question à la fin à relire le document et à regarder tous les passages qui parlent de Jésus dans la création, et la réponse, elle est là.
Je pense que c'est peut-être important de rappeler aussi ce que tu as dit, c'est que Jésus-Christ est quand même principalement ré révélé dans le Nouveau Testament. On a moins d'informations précises, disons, dans l'Ancien Testament.
Oui, nous allons le voir très bientôt. Le rôle de Jésus dans l'Ancien Testament, il est surtout dans l'histoire de la rédemption en tant que l'ange de l'Éternel. Et ça, on va le voir très bientôt. Parce que ça, c'est le principal rôle de Jésus dans l'Ancien Testament. Et en fait, pour Dieu, c'était important que ce rôle-là soit mis de l'avant et nous amène plus tard à l'incarnation et là au rôle de Jésus en tant que rédempteur. Mais il est dans l'histoire de la rédemption pour préserver sa propre ligne, sa propre famille, son propre peuple Israël. Vous réalisez que Jésus, le Fils de Dieu, va être celui qui va préserver sa propre lignée rédemptrice. Assez hallucinant quand même quand on réalise cela de ce point de vue. Moi, ça m'impressionne au plus haut point.
Et une dernière question qu'on a, aussi un étudiant qui trouve que l'interprétation de la Bible paraît complexe parce que ça fait appel à des notions qui ne sont pas toujours évidentes. Et il parle notamment de ce que tu as donné comme explication sur Colossiens 1,15, Hébreux 1,5. Est-ce que ça vient du fait que notre langage est trop limité ou est-ce que c'est des connaissances qui nous manquent ou...
Je dirais que c'est un peu tout. Et puis, vous savez, on est tous des étudiants éternels dans un sens. En fait, durant toute notre vie ici-bas, certainement. Et voilà, on a tellement à apprendre de choses. On découvre toujours des choses de plus en plus. Paul dit, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, je raisonnais comme un adulte. Et moi, je trouve que ce principe-là s'applique à la maturité chrétienne, à la croissance même dans l'étude de la parole de Dieu. Je ne lis plus la Bible exactement comme quand j'étais un tout nouveau croyant, en ce sens où maintenant, il y a de nouvelles questions qui surgissent dans mon esprit de par tout ce que j'ai appris, ce que j'étudie, ce que je découvre, etc. Les différentes formations que j'ai suivies m'amènent aussi à mieux regarder le texte, c'est évident. Donc, on va acquérir de l'éducation, de la formation, de l'expérience, et puis une habitude de même de lire la parole de Dieu qui, au fur et à mesure, va nous éclairer. Mais voilà, reste quand même que, vous savez, je suis en train de lire le livre de Jérémie, mais je me sens complètement nu devant ce texte. Je suis dépossédé de tout moyen. J'ai de la peine à comprendre ce livre. Et puis, franchement, si on me bombardait de questions dans Jérémie, je pense que la question serait presque toujours, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est trop gros. C'est immense. Et puis, on n'a pas étudier tout. Il y a des choses qu'on a plus étudiées que d'autres et forcément, donc, nous avons plus de connaissances dans certains domaines que d'autres. Et puis même que Dieu donne des dons dans certaines choses plutôt que dans d'autres. Alors voilà, je dirais que c'est plusieurs éléments qui font en sorte qu'un texte devient peut-être plus, non, j'aime mieux le dire autrement, devient moins difficile à interpréter plutôt que plus facile, moins difficile. Mais voilà, ça nous met au défi justement de développer la capacité de mieux comprendre et interpréter les Écritures.
Et peut-être ça, on peut s'encourager à lire régulièrement la Bible de Genèse à Apocalypse. Ça permet aussi d'avoir une vision plus complète et petit à petit, ça imprègne notre esprit. On arrive à un peu mieux à placer les éléments les uns par rapport aux autres.
Merci Claude-Henri, c'est une très bonne observation. Puis franchement, je veux insister là-dessus aussi, de dire, quand on lit la Bible en un an, on a une vue systématique beaucoup plus large et puis on a une vue globale, on a une vue d'ensemble et puis ça nous permet de reconstruire et de relier ensemble les parties de la révélation progressive de Dieu, effectivement. Ça, c'est le point de départ. Si on ne lit pas notre Bible en une année et qu'on lit rarement l'Ancien Testament, on peut difficilement s'imaginer pouvoir bien interpréter la fin de la révélation progressive de Dieu en connaissant pas le début, par exemple.
Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on fasse une pause. On va recommencer à 9h15, 9h15.